Si je suis un collinard, c'est parce que toutes mes racines sont plantées dans ce petit village d'Éligny, cette petite communauté de gens qui vivaient entre le bois d'Anvin, le parc d'Anvin et la colline du bois de Martimont. Je suis né en 43. J'ai surtout passé mes études primaires tout ce temps-là, ici dans le village. Il y avait deux communautés à Éligny. Il y avait la communauté, je vais dire, des adultes, et il y avait la communauté des jeunes. Et la communauté des jeunes vivait parallèlement à la communauté des adultes. Les jeunes intervenaient auprès des adultes, mais surtout, ils avaient une vie à part en allant dans les bois. Chacun devait apporter quelque chose, un pot de confiture. Et alors, on avait des cachettes partout, des camps, on appelait ça des camps. Quand la ronde débordait, on allait faire du canotage avec des cuvelles. On avait énormément d'activités qui ne plaisaient pas toujours aux adultes, mais c'était une communauté séparée, mais qui était bien au courant de tout ce que les adultes faisaient, des petits bruits de ménage, des petites scènes et tout. On savait, on avait intérêt à ne rien dire, mais on était conscient de ça. Il y avait moins d'habitants, une centaine, c'était vraiment très petit. Et la communauté se retrouvait quand même toujours le dimanche à l'église. Ici, à l'église d'Éligny, on avait la messe, mais après on sortait et il y avait le regroupement de toute la paroisse quasiment sur le parvis, là, et tout le monde se parlait. Et tout le monde échangeait des idées, les potins. C'était très constructif ce moment-là. Il n'y avait pas de commerce, on allait au Bourg. Le Bourg, pour les gens d'Éligny, c'était Fran, le Bourg. Il y avait le marché qui était très important. Et pour les petites commissions, comme les clous, les fausses mailles et tous ces trucs-là, il y avait Anvin. Tout ce qui était administratif relevait d'Anvin. Mais disons qu'on ne prenait Fran que surtout pour le marché du vendredi. C'était très très important. Les jeunes pensent beaucoup qu'ils sont libres, mais nous on était vraiment libres. On allait à l'école à Anvin, il y avait toute cette drève de 2 km entre les bois, avec le château, le gibier qu'on rencontrait, on arrivait toujours en retard. Comme notre petite communauté de jeunes vivait vraiment ensemble, par les petits sentiers à l'intérieur du village, on se retrouvait, rendez-vous à telle heure là-bas. Aujourd'hui, on fait une expédition sur les bois de Martimont. Et les plus grands s'occupaient des plus petits. Et c'était la totale liberté, vraiment en dehors du monde adulte, mais profitant quand même des adultes. Les gens du bas avaient quand même plus d'aisance que les gens du bois de Martimont. La terre sur le bois de Martimont, c'est du sable, c'est des galets, c'était des petites fermes. Et il y avait toute une série d'ouvriers et d'ouvrières du bois de Martimont qui descendaient sur le village d'Éligny pour travailler dans les fermes, des ouvriers agricoles, des servantes, qui descendaient le jour et le matin et remontaient le soir. Donc ils ne restaient pas à demeure. Il y avait aussi à Pâques, par exemple, les gens du haut descendaient et venaient faire le pardier, pour l'amour de Dieu, demander des œufs, tout ça. On était plus pauvres sur le dessus et les petits fermiers d'Éligny, qui n'étaient quand même pas très riches, malgré tout, se considéraient différemment des gens du bois de Martimont, qui étaient plus indépendants, plus vite révolutionnaires, moins classiques, quoi. Notre champ de plaisir, notre champ d'action, c'était d'aller... Il y avait un endroit très, très connu, c'était la Fontaine à Bus. Et il y avait un autre endroit, la Fontaine de l'Enfer. Et on allait par les petits sentiers, tout le groupe, et là-bas, c'était la Lande à ce moment-là. Maintenant, c'est boisé, mais on organisait des jeux de bar, des jeux cow-boy, indiens, tout ce qu'on voyait un petit peu. On jouait à Tarzan, ça se faisait beaucoup à la Fontaine à Bus. Et puis quand on devenait un peu plus grand, les rendez-vous galants, c'était là aussi. Par exemple, le dimanche, on vivait en relation avec l'église, les prêtres, les curés, aller après la messe boire une tasse de café dans telle maison, le dimanche d'après dans telle autre, et il y en avait toute une série qui venait à la maison. Il existait à Éligny un gros problème entre les curés et les coulonneux. tous les gens du centre des Nini jouaient à pigeon. Alors, parfois, le curé voulait sonner les cloches, mais c'était le moment où les pigeons tombaient. Alors, ça faisait tout un drame. Ou bien, il arrivait boire une jatte de café, mais il faisait du bruit en rentrant à la maison. Le pigeon qui arrivait justement sur le toit partait. Alors, ça faisait des conflits. C'est ainsi que, par exemple, il y en avait toute une série de coulonneux qui se mettaient dans le fond de l'église. Et puis, il y en avait un qui restait dehors. Et après, tout d'une fois, il criait « Envelin, envelin !» Et alors, tous ceux du fond se ruaient dehors pour aller voir le pigeon qui tombait. Et une fois, le curé, ça l'a énervé, il a fermé la porte par l'enfant de cœur. Et alors, quand l'autre a crié, ils n'ont pas su sortir. Alors, ça faisait des conflits. Là où il fallait l'intervention des femmes, il y avait notamment une vieille femme, une Adeline Pichon, qui s'occupait beaucoup d'église. Il y avait un rite, par exemple, quand on est avec un mort, elle le précédait. Il n'avait pas de corbillard. C'était les gens du lieu qui portaient à brancard le vraiment, c'était très typique. Et alors, elle l'attendait avec le cierge à l'entrée. Et alors, elle marchait devant le corps avec le cierge. Comme ça, c'était très rituel. Et cette femme, alors, intervenait dans les conflits entre les curés et les coulonneux. Et Nini, on disait parfois, c'est la porte de l'enfer. Les gens de Frane, les gens surtout de Frane, je pense, disaient, Nini, c'est la porte de l'enfer. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de buveux. Toutes les maisons étaient un petit peu un café clandestin. Le matin, on commençait par boire cette petite goutte. Et puis après, quand arrivait Pâques, il fallait faire ses Pâques. Alors il y a une période, je pense que c'est 3 semaines après Pâques, on peut encore faire ses Pâques. Mais il y avait un rite, c'est le dernier qui faisait ses Pâques, il recevait un jambon qu'il partageait avec les autres. Alors c'était entre hommes que ça se faisait, ça évidemment c'était les hommes. Alors ils attendaient toujours d'être le dernier pour faire leur Pâques. Et à la dernière limite, ils arrivaient, ils se mettaient sur les chaises et c'était le dernier qui passait, donc ils se bousculaient au moment où... Puis à un certain moment, le curé attendait, il n'y avait plus personne qui se présentait au confessionnal, mais ils étaient sur les chaises, ils attendaient pour avoir le jambon, quoi. Il fallait être dernier. C'était un rite très spécial, il y avait toute une série de rites comme ça.
Un moment privilégié dans la vie de Maurice Pichon enfant, les écrins qui lui ont inspiré ce texte.
Une des choses les plus importantes à Eligny, c'était la soirée, l'écrin. Et le petit texte se rapporte à ça. La soirée, l'écrin s'ouvrait par l'exposé des récentes nouvelles de la communauté villageoise. L'actualité, en quelque sorte. Depuis la dernière fois où on s'était vu. Les maux des bêtes et des gens, dont deux fléaux, la cocotte pour les bovins et la tuberculose pour les humains, les joies et surtout les peines des habitants, l'évolution des récoltes, le temps qu'il faisait et celui prévu par la lune, l'expérience, les dictons locaux. Les faits ordinaires de la vie courante, à ce moment de la veillée, prenaient corps et se musclaient au sein de leur évocation. Ils devenaient la chose de tous. Les événements rares, eux, s'annonçaient par une phrase rituelle, in daqua arrive un à Oswald Dupache, par exemple. En ce domaine, Gaspard était un conteur émérite, un mage qui forgeait la légende, alimentait la mémoire collective, vivifiait l'âme du village, la cerclait dans son particularisme. Il transportait le flux qui nourrissait l'esprit du groupe. Nous voyons cette fois le fossoyeur arriver à Eligny. Il venait d'Anvin, c'était un ouvrier communal d'Anvin. Et après son arrivée, il passait chez tous les gens, oubliant exprès un râteau, une brouette, comme ça, ça lui permettait d'aller chez tous les gens, où il buvait une goutte. Après sa tournée des habitués, le gaillard se ruait enfin au travail comme un forcené. C'est qu'il prétendait rattraper le temps perdu, et même le dépasser. Ainsi, vers les 4 heures de l'après-midi, il clôturait sa journée. Dans les 3 cimetières d'Eligny, il progressait rapidement et il accueillait avec bonhomie les enfants, ses petits ouvriers qui l'aidaient. « Ramassez les monts, les enfants, et ruez-les dans la brouette. Vous aurez un chocolat. Quand qu'on fait, n'est plus à faire. » À l'heure du goûter, il rejoignait son vélo appuyé contre le cœur de l'église et il attachait soigneusement les coupes sous le regard admiratif de ses petits aidants à qui il débitait des tas de calembres d'aine qui le réjouissaient. Et vos papas, ils dorment quoi avec vos mamans ? Puis il reportait à chacun le matériel emprunté, mais cette fois, il avait le temps. L'ouvrage était fini. Une dame assez pour aujourd'hui. Les libations se succédaient généreusement, ponctué de coups de rire roulants comme le tonnerre et déferlant en averse jusqu'à la route, ce qui faisait dire à tout ce qui passait, le fossé est là et il était plein de forme.
Autre moment clé dans l'enfance de Maurice Pichon, la mort brutale de Jules Diric. Une mort qui lui a également inspiré un texte.
C'est-à-dire qu'en 52, donc j'avais 9 ans, on moissonnait du blé sur le flanc de la colline de Martimont. Et lui, en pleine chaleur, il a voulu aller faire comme tout le monde faisait, attraper son lapin. Alors il a préparé son bâton, il est parti en pleine chaleur, son frère lui disait c'est mauvais, mais il n'avait rien à faire. Et puis il a couru tout le tour du champ, comme on faisait, on passait avec son bâton pour taper sur le lapin qui était amoncelé là entre deux rangs. Et tout d'une fois il a crié, j'en ai un, il est tombé. Et on est parti voir, on était content qu'il y en avait un, mais en réalité il était mort. Alors ça m'a très fort frappé parce qu'après il a fallu le ramener sur une civière, il a fallu faire sa toilette mortuaire, les femmes étaient prêtes, tout le village, évidemment c'était un grand fait dans le village, tout le village était là et j'ai assisté à tout ça et après mon père est venu sonner le glas et alors j'étais là dans l'allée. Je n'ai jamais oublié ça, parce que ça m'a très fort marqué, cette ambiance qui pour moi était folklorique. Ce qui m'a marqué là-dedans, j'ai découvert une relation entre les choses et les êtres. C'est ça qui m'avait frappé. Donc cet extrait d'un conte se rapportant à Eligny et qui s'appelle « La traque éternelle » vu que Jules Diric était parti à la traque au lapin et qu'il n'en est pas revenu. Donc nous sommes au moment où mon père sonne le glas. Jules a eu sa toilette mortuaire et on sonne le glas. Tandis que le glas s'épillait comme du blé trop mûr et qu'il tombait grain après grain sur le village tassé, l'enfant s'assit solitaire au bord de l'allée centrale de l'église parmi les chaises trop sages. Il sentait rouler sur lui les amples larmes sonores qui ébranlaient sa faible chair. Le mécanisme ronflait dans le clocher. La corde cognait contre la trappe au-dessus du porche. Le battant fonçait puis s'emparait du silence qui les calait avec brutalité. De son bâton, le gamin tapait en rythme une dalle à droite, une dalle à gauche. Soudain, au fond de lui, né d'un écho inconnu, sa fille, Jules est mort. Jules est mort, à la cadence du glas, et il s'y agrippa pour ne pas la perdre. Le moment était magique et il le vivait intensément. Ainsi la cloche avait pris l'âme du sonneur. Ainsi la cloche portait l'âme du défunt. Ainsi la cloche pénétrait l'âme de ceux qui l'entendaient et elle leur parlait. Jules est mort. Jules est mort. Dans une puissante illumination, je venais de découvrir la communication entre les choses et les êtres. Je n'ai jamais oublié cet instant. Et je m'en souviens toujours avec émotion.
Dans le bas d'Eligny, la maison natale de Maurice Pichon.
C'était une petite ferme de 7-8 hectares. On savait vivre très bien avec une ferme de 7-8 hectares. La preuve, les parents nous ont quand même fait étudier, ma sœur et moi, avec une très petite ferme. Maintenant, ça vaut un champ, un petit champ pour un fermier. La maison est tout à fait changée, elle a été rénovée, des bâtiments ont été abattus, il y avait un hangar, un carry, un fourni, tout ça est disparu et c'est devenu une belle petite maison de campagne. Ce sont des étrangers, des gens du lieu quand même, des collineux, parce qu'il y a les collineux et les collinards. Mais un collinard, ça correspond à campagnard, à montagnard, c'est un type élevé dans les collines et qui connaît le caractère rural, pas parce qu'il a acquis la ruralité, mais parce qu'il connaît la terre. Il sait mettre ses mains dans la terre, il connaît les rythmes de la terre, des saisons, et il y a plein de points de repère de ses racines, quoi, dans les collines.
Sur la route buissonnière, une halte à la ferme du Fécheux.
Je venais ici en frontière pour aller après par des sentiers vers Montreuil au bois où je portais notamment la viande pour un boucher, le Charreux qui s'appelait ce boucher-là. Et j'allais avec mon petit vélo rouge et je portais la viande pour lui. Au lieu d'aller à l'école, je savais faire ça pendant 2-3 jours, ça, je faisais l'école buissonnière. Mais je venais beaucoup à cette ferme qui s'appelle la ferme du Fécheux. C'était une ferme en carré où il y avait énormément d'activités. C'était déjà une grande ferme parce qu'il y avait 3 chevaux. Or, c'est le nombre de chevaux qui donnait l'importance à la ferme. Et ici, il y avait l'ancêtre, il y avait l'ouvrier, il y avait une fille. Et tout cela vivait comme ça, tout différent de chez moi, qui était une petite ferme. Autour de la table, il y avait les repas organisés, on cuisait le pain, il y avait la laiterie. Pour moi, c'était toutes des activités, quoi. Et il y avait une chose très importante, il y avait une garde-robe dans la dernière chambre. Et là se trouvaient des bandes dessinées, notamment les Tintins et Bécassine, les Pieds Nickelés. Et c'est ici que j'ai découvert le plaisir de lire. C'était très rare à l'époque d'avoir des livres chez soi. Pour avoir des livres, je devais aller chez le docteur Fievé à Frasnes, ou bien chez le vétérinaire d'Opchy. J'avais une relation assez singulière avec eux. Et alors, chaque fois, ils me prêtaient des livres de Jules Verne et tout. Et ils me disaient, qu'est-ce que tu as lu? Je devais faire un résumé à leur femme après. J'adorais lire.
Une route buissonnière qui mène aussi au château d'Anvin.
Ah, nous sommes en effet près du château d'Anvin. Et quand nous allions à l'école, qui avait ces 2 kilomètres de drève, c'était une halte obligatoire. Il y avait toujours quelque chose à voir. Il y avait des épinoches à ce moment-là, par exemple. On pêchait les épinoches. Puis il y avait le gibier. Quand on voyait un faisan, on courait après, même si la maison du garde est tout près, mais on s'y risquait. Puis on dénichait. On allait, quand lui rattrapait les faisans, c'était facile à attraper et à reporter alors chez nous. Il y avait des pièges, on mettait des pièges pour les rapaces et on détachait les pièges. On faisait toujours à l'envers, et toujours un petit groupe, le petit groupe des gens d'Eligny qui allaient à l'école d'Anvin, quoi. Et puis aussi, après un beau jour, on a découvert qu'il y avait des armes. Les Allemands, quand ils sont partis, ont jeté des armes dans un lieu qu'on appelle le gouffre et où le canal se jette ici. Et là-bas, alors, on a eu accès aux grenades, à des espèces de petites bombes. Et on passait notre temps à les défaire pour prendre la poudre et faire des feux d'artifice jusqu'au moment où l'instituteur l'a appris. Alors, le service de déminage est venu, quoi. La capitulation a été signée ici au château d'Anvin et puis les Allemands l'ont occupée. Et il y avait énormément d'armes, ils avaient un stock de munitions qu'ils ont détruit à la libération et qu'ils ont jeté par-ci par-là. Et c'était une de nos activités favorites, mais évidemment dangereuse. Après mes primaires, j'ai dû être enfermé parce que j'étais indiscipliné. On disait toujours que je finirais à l'école de correction. Au lieu d'aller à l'école de correction, j'ai été en pension. Ce qui ne fait pas une grande différence pour moi. Après mes 9 années de pensionnat, je me suis marié. Et ma femme enseignait à Mont-de-l'Enclus, à Anserolles, parce qu'à ce moment-là, les communes n'étaient pas encore fusionnées. Et je suis venu habiter à Anserolles. J'ai vécu alors dans un coin retiré, Anserolles, un petit coin retiré en pleine nature, en plein un cul-de-sac, ce qui me plaît très bien. Et après, j'ai enseigné au Colibri, enseignement spécial, 20 ans. Et puis je me suis recyclé à la commune de Mont-de-l'Enclus parce que j'en avais assez de l'enseignement. Et là, j'ai pu, grâce à la fonction que j'avais, c'est-à-dire responsable des travaux et des ouvriers communaux, vivre beaucoup dans le paysage. Parce que pour être efficace dans ce boulot, il faut marcher beaucoup, il faut connaître ses cartes, ses plans. Et là, ça m'a permis de découvrir l'importance des routes, des chemins anciens, des hameaux. Tout ça m'a beaucoup marqué aussi. Je vivais dans le paysage que j'avais toujours aimé et je n'avais pas quitté les collines puisque je retrouvais une autre colline. Passer d'Eligny à Anserolles, c'était un grand changement, mais j'ai eu la chance de tomber dans un petit quartier, un hameau. Et dans ce hameau existait une mentalité d'entraide et vraiment de participation à la vie l'un de l'autre, sans toutefois s'encombrer mutuellement. On n'allait pas beaucoup les uns chez les autres, mais on était toujours disponible pour s'aider quand il y avait un problème. C'est ainsi que pendant bien des années, puisque j'avais acheté une ancienne ferme que j'ai aménagée avec ma femme, c'est ainsi qu'on a été longtemps sans salle de bain. Alors on mettait une cuvelle en face du feu et on s'y lavait le samedi, c'était notre baignoire. Et puis après, la voisine, qui était une ancienne fermière, a fait installer elle, sa salle de bain. Eh bien, on allait se laver le samedi chez la voisine qui préparait toute l'eau. Il n'y avait pas de chauffe-eau sur des becs à gaz. Il y avait toutes des casseroles, des marmites. Et après, on arrivait. Elle criait, elle disait « Allez, venez !» Et on vivait tellement bien avec ces personnes après que, par exemple, ils mettaient une chaise sur le côté de la route, ça voulait dire vous devez rentrer. Alors on rentrait après notre travail, ma femme et moi, et par exemple elle avait fait du rata au chicon, du rata aux carottes, et alors on avait notre repas prêt. Ça, c'était la mentalité du petit coin où je vis et qui est toujours la même mentalité.
À Anserolles, tous les chemins mènent au Barger. C'est là que le soleil se lève.
Le Barger est un écart de la commune d'Anserolles, mais c'est un lieu de passage et même un lieu de convivialité. On y vient dans un cadre comme il y a 100 ans, rien n'a changé dans le café, on y vient pour s'y retrouver, on y fait des échanges, on y parle. Celui qui a des poireaux, par exemple, va dire « j'ai des poireaux à repiquer, qui c'est qui en veut ?» Alors on choisit. Celui qui va chercher le beurre, ben, il en prend en même temps pour 2-3 personnes. Et alors les gens passent et viennent comme ça. C'est un lieu d'échange. On a fêté le centenaire de ce café, toute une équipe d'habitués. Mais c'est un café qui crée aussi la fonction comme à Eligny, qui enracine les gens. Le soleil levant, parce que juste en face, le soleil se lève et on découvre la campagne. Et c'était très important avant pour ces gens, parce que c'était une entreprise agricole de machines à battre. Alors, ben, c'est très important de voir quel temps il va faire, quoi. Ça a une ambiance particulière par le cadre. Il y a encore des voussettes, des cadres sur le mur qui donnent des conseils moralisateurs. Ne faites pas crédit, achetez au comptant. Et en plus, des petits symboles. Et les gens savent bien que quand ils viennent, s'ils veulent faire plaisir à la patronne, ben, on amène chacun sa petite phrase et puis un petit cadre. Mais ça conserve le caractère typique de l'estaminet du temps passé. On ne peut pas dire que j'y viens beaucoup. J'y passe quand j'ai tout d'une fois plaisir à retrouver tous des gens que je connais. Je ne suis pas un habitué de ce café, mais c'est un lieu de ressourcement. On se retrouve sur un endroit magique du mont de l'Enclus. C'est l'endroit où les sources sortent, où il y avait un quartier qui s'appelle La Pierre. Donc, il devait s'y trouver une pierre typique, une pierre levée probablement. Et puis, il y avait un arbre qui était reconnu magique et qui servait à rendre la justice en dessous. Il s'appelle le tronc des échevins dans les Atlas. Et tout ça est groupé ici sur le flanc, plus ou moins dans ces régions-ci. C'est donc un endroit important où, entre autres, on situe l'ermitage, puisque Mont-de-l'Enclus signifie ermitage. On situe l'ermitage qu'on trouve d'ailleurs en représenté par un petit dessin sur une carte à la commune. Et dans cet endroit s'est développée une très belle propriété de vacances, très bien intégré, qui remplit un rôle essentiel au monde inclus et pour laquelle nous sommes tous tellement content de la posséder, c'est le centre protestant d'Amougy. Ce centre protestant se trouve à la Vertevoie, mais il n'est protestant en rien. Il est tout à fait intégré et il reçoit des gens de toute religion, de toute opinion, du moment qu'on respecte les droits de l'homme. Pour faire mon travail à la commune de Mont-de-l'Enclus, c'est-à-dire responsable des travaux, il faut beaucoup marcher dans le paysage. Une des choses essentielles à découvrir, quand on a un flanc de colline, c'est l'écoulement des eaux. Et pour ça, bien, il faut regarder toutes les petites lignes de crête de chaque vallon. Et tout ça, ça doit se faire à pied. Ce n'est pas en auto qu'on fait ça. Alors on marche, on découvre plein de choses. On découvre l'importance de l'érosion, qui est un fait essentiel du Mont-de-l'Enclus. Et on découvre aussi que des chemins ont des courbes inexplicables. Alors on se demande pourquoi nos ancêtres, parce que c'est de nouveau à la recherche des racines, pourquoi nos ancêtres ont fait chemin comme ça. Et en faisant des enquêtes, on découvre « Ah, mais la route allait tout à fait différemment ». Et le village est très, très marqué par les chemins, je dirais, aspirés par des écarts, aspirés par des fermes isolées avec deux, trois maisons d'ouvriers autour. Tout ça se retrouve dans le paysage. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'alors, quand je rentre dans le paysage, je le vis. Je découvre les personnages qui l'ont occupé. Ils ont laissé une trace. Je découvre même, grâce à mes lectures que j'applique un petit peu ici, la trace des Romains, des Gallo-Romains. Je découvre ça sur Husseny, où il y avait une villa gallo-romaine, et où j'ai ramassé des pierres, des morceaux de tuiles, et ce qui s'ensuit, quoi. Donc ça a été très important pour moi. Ces racines que je découvrais à Mont-de-l'Enclus m'ont poussé vers mes racines d'Éligny. Et alors je me suis souvenu de tout ce qu'on racontait. En faisant mon travail, en plus, je côtoyais beaucoup de gens ici au Mont-de-l'Enclus, dont des vieilles personnes qui me racontaient aussi des histoires. Et il m'est venu l'idée de raconter. Et comme on disait que j'avais un certain talent en écriture, ben je me suis mis à raconter. Mais je ne sais pas fort raconter sur Mont-de-l'Enclus, c'est toujours sur Éligny que je reviens à raconter, parce que j'ai vécu là, dans l'esprit des écrènes, où on racontait justement, où les gens prenaient un plaisir intense à raconter. Et ça m'a marqué, c'est ce qui m'a conduit à l'écriture. Mais je vais dans l'écriture, mais j'ai un petit peu le tort de ne pas, si on veut, publier, quoi. J'écris, je tiens ça pour des intimes. Je raconte parfois à la commune lors de fêtes, mais j'ai un peu peur au point de vue social de me lancer dans des histoires, parce que je suis quand même un peu solitaire. Dans le fond, c'est l'ethnologie. Je raconte un temps passé. Quand je raconte, je veux montrer dans des idées, dans une histoire, comment on vivait dans le temps. L'importance du cadre des ancêtres sur les murs, ces grands cadres avec les ancêtres, avec grosses moustaches qui vous regardaient. L'importance de la salle à manger dans laquelle on n'allait jamais. On ne sait pas s'imaginer ça, mais on n'y allait jamais, sauf deux fois par an. L'importance des rats. Et ce que je veux montrer, c'est comment on vivait. Et c'est surtout ça qui m'intéresse, mais je le fais à travers une histoire. Par exemple, il y avait le feu, il y avait un fauteuil de chaque côté, il y avait le pot à crème. On se demande ce que c'est qu'un pot à crème. Donc, c'était pourtant très important. C'était la crème qui allait servir à faire du beurre. Elle devait prendre, elle devait sourire un petit peu. Et ça se faisait près du feu. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est raconter. Et revivre moi-même, parce que je revis moi-même. Mais je fais ça avec une histoire. Oui, les personnages d'Éligny, justement, étaient très typés. C'était vraiment chacun était un monde et ils promenaient leur monde avec eux, leur désarroi parfois, leur peine, mais aussi leur joie, leur tristesse. On rigolait beaucoup, pour bien dire. On rigolait entre soi. Il y avait aussi des haines féroces qui duraient de génération en génération. C'est ce qui fait le charme de ces villages et c'est vrai que les personnages étaient très, très, très marqué. J'ai eu la chance, moi, dans ma vie, de côtoyer des gens différents, des gens tous différents dans ma jeunesse. Quand je faisais l'école buissonnière, j'allais du boucher au vétérinaire, au docteur, je faisais les commissions pour les vieilles personnes, je chantais, je faisais des sketchs dans leur maison, en privé, ils m'appelaient, et tout ça m'a apporté, mais dans un climat de liberté. Thank you.
La magie de l'écriture, selon Maurice Pichon.
J'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit. Même à l'école primaire, j'écrivais. Déjà dans le secondaire, je me suis perfectionné. Et puis, j'ai rencontré un auteur qui m'a beaucoup marqué, c'est Giono. Alors, Giono, c'est le chant du monte. C'est le chant de la nature. Ça correspondait à mon esprit de liberté. Ça correspondait à la façon dont j'aimais un peu écrire. Et alors, je me suis perfectionné. Mais je n'ai pas confiance en la façon dont j'écris. Alors, j'ai participé à 2-3 concours simplement pour voir si c'est vrai ce qu'on me disait. Ben, t'écris bien. Mais alors, je me suis confronté par 2-3 concours. Et j'ai vu, en effet, que j'ai obtenu chaque fois des prix. Alors, ben, c'est vrai. Alors, je dois en déduire que j'écris bien, quoi. Je ne cherche pas à gagner de l'argent, ça, sûrement pas. Mais il faudra peut-être que je me mette à envisager d'écrire, de publier au moins ce que j'ai sur Eligny pour que les gens qui habitent maintenant Eligny se retrouvent un petit peu, quoi. Pour que les jeunes d'Eligny, que je ne connais plus, aient des liens avec leur passé, quoi. Ils iront au cimetière, ils verront des tombes. Tiens, tel, on en a parlé. Peut-être que ça viendra. Les contes que j'ai écrits sur le mont de l'Enclus sont tout à fait différents. Ce sont des contes magiques. Avec les forces de la nature, la terre. J'ai été fort marqué par le glissement de terrain. J'étais au travail à ce moment-là. Et ça m'a révélé les sources, les glissements de terrain. Ça correspond, ça éveille en moi beaucoup d'écho.
C'est ainsi qu'est née la légende de Lidéric.
Lidéric, c'est un personnage qui s'est révélé peu à peu très important. Je l'ai découvert par l'intermédiaire de Georges de Lettrin. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ça à travers des vieilles publications. Je me suis intéressé de plus en plus, parce que j'ai une formation de prof d'histoire aussi. Alors je me suis intéressé de plus en plus au côté historique. Je me suis demandé s'il pouvait avoir des vérités. Les légendes ne naissent jamais de rien. Alors qu'est-ce qu'il pouvait avoir? Mont de l'Ermitage, c'était déjà un ermite. Dans toutes nos légendes, il y a un ermite. Mais le mont de l'Enclus, ça signifie mont de l'Ermitage. Et petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup de caractères transmis qui se rapprochaient de certaines vérités. Et après, petit à petit, on est venu avec l'idée de faire une représentation théâtrale et on m'a demandé d'écrire chaque fois l'histoire de Lidéric, mais vue de façon différente. Mais il y aura encore une activité Lidéric, mais plus une représentation théâtrale, et on a déjà une idée pour l'année d'après. On a toujours une vision, on voit la légende de Lidéric, toujours la même, mais vue par différemment. Par exemple, je trouve qu'il serait bien, mais ça c'est encore très lointain, de l'avoir une fois par celui qu'on appelle le mauvais, Finard. Hein, je l'imagine au paradis, tout le monde est au paradis. Je l'imagine au paradis et j'imagine qu'il rencontre Lidéric au paradis, alors il revoit tout différemment, quoi, avec une vision plus négative, parce qu'on a toujours tendance à idéaliser Lidéric, mais c'est relatif.
Voici un extrait d'un conte qui se passe à Mont-de-l'Enclus et qui évoque la relation entre un ermite et un enfant rejeté par tous.
Ce fut au début de l'automne qu'éclata l'orage sans pluie ni vent. Le ciel se déchirait, crissant et grondant, les éclairs s'entrelaçaient, se chevauchant et se nouant en foudre. La terre tremblait. Directement, le saint homme reconnut cet orage. Et le lendemain, il quittait sa retraite, traversait la vallée marécageuse, passait à gué la rouge rivière, gravissait les hauts champs et distinguait enfin la haute tour carrée. Par des voies dissimulées, il pénétra dans le territoire maudit et se renseigna. Il cherchait un grand bois de chêne où vivaient des porchers. Méfiant, agressif, face à cet étranger qui les subjuguait, les paysans le dirigèrent vers le Quesnoy. De suite, il identifia le paysage. Il dut vaincre l'hostilité misérable des êtres sales et malodorants qui y vivaient. Ainsi, il apprit l'accident survenu la veille à un enfant dont la vue avait été consumée par la foudre. Un aveugle, une bouche inutile à nourrir. Surtout en ces temps si durs où Walran, le maudit, prenait même le vital, un pouls qui susciterait le sang. Ah, autrefois, on l'aurait vendu pour qu'il mendît sur le parvis des églises au profit d'un maître brigand, mais le commerce était éteint. Que Dieu le rappelle donc, que Walrand le détruise même. Comment ? S'il voulait le donner à lui, l'inconnu ? Bien sûr que non, ne pourrait-il servir ? Et puis on y tenait, hein ? Pourtant, si l'étranger faisait un geste, on était si pauvre. L'ermite coupa court, saisit dans son sac une vessie de porc emplie de pièces et l'acheta dans la première main qui se tendit. Il dit « Je suis Cathbat, l'initié ». Il agrippa l'enfant, aveugle, qui rampait dans la vase et ses excréments, le chargea sur ses épaules et s'en alla.
En conclusion,
j'ai surtout une grande envie, c'est vivre. Et vivre, c'est sentir. Et alors, il y a une chose, un mot que j'adore, c'est harmonie. Établir l'harmonie en moi, établir l'harmonie avec les gens que j'aime, établir l'harmonie avec le paysage et être accessible pour les jeunes qui aiment bien communiquer, qui dans le fond sont très sympas, mais doivent souvent dissimuler leurs sentiments dans un monde sous de l'ironie, sous des attitudes et tout. Mais en dessous, il y a une grande richesse et c'est ça que j'ai envie. Et aimer, et peut-être être aimé aussi.